Nous accueillons donc aujourd'hui Madame Nathalie Roret, l'actuelle directrice de l'École nationale de la magistrature, et nous avons de la chance de l'accueillir. Après 16 hommes, Nathalie Roret est la première femme à occuper ce poste depuis la création de l'école par Michel Debré en 1958. Elle est le premier directeur non magistrat, puisque avocate, elle était vice-bâtonnière du barreau de Paris lorsqu'elle fut nommée à la tête de l'ENM le 7 octobre 2020. Je vous rappelle, à tout hasard, que le barreau de Paris compte environ 32 000 avocats, soit près de la moitié du barreau français. Donc, être vice-bâtonnière du barreau de Paris, ce n'est pas tout à fait n'importe quoi. En octobre 2020, il était envisagé de supprimer cette école, comme ce fut le cas pour plusieurs autres. À défaut, il fut dit, et ce sont les propos que tint alors le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qu'il convenait de l'ouvrir sur la société. Et je le cite, « L'ouverture, c'est d'abord rompre avec des traditions surannées, c'est rompre avec la tentation du vase clos et de l'entre-soi. C'est vouloir réfléchir et débattre autrement qu'entre pairs. » Fin de citation. Propos que l'on retrouvera dans nombre des contributions que la revue Commentaire réunira en 2022 dans sa passionnante étude consacrée à justice et politique. Au moment où Mme Nathalie Roret vient d'être reconduite dans ses fonctions et où viennent d'être publiés deux textes majeurs portant notamment sur l'ouverture du corps judiciaire comme sur la formation de nouveaux magistrats, texte conduisant aussi l'école à accueillir un nombre extrêmement élevé de futurs magistrats, notre communicante, qui conserve un regard extérieur et toujours neuf sur la magistrature française, va nous dire qui est magistrat, qui est juge en 2024, qui est actuellement appelé à nous juger, à vous juger, et qui le sera dans les années qui viennent. Le défi auquel elle est confrontée est de taille. Je citerai simplement un chiffre. Songez qu'en 1967, il y a 56 ans, je faisais partie, en arrivant à Bordeaux, d'une promotion de 29 élèves magistrats et que l'école que dirige Nathalie Roret va en accueillir 470 en 2024. Madame, vous avez la parole. Souhaitez debout. Nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt. Vous êtes appelée à parler avec retard. Nous nous en excusons. Donc, dites tout ce que vous avez à nous dire. Le temps de questions sera un peu réduit, c'est dommage, mais c'est comme ça. Allez-y.
Je vous remercie, monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les académiciens. Je suis extrêmement honorée de votre invitation à l'occasion de ce cycle annuel 2024, Regard sur la justice. Et votre choix de cette thématique pour l'année qui débute illustre assurément que la justice est aujourd'hui, plus encore qu'hier peut-être, au cœur d'enjeux démocratiques, politiques et sociétaux. Des états généraux de la justice ouverts par le président de la République en octobre 2021 aux lois portées par l'actuel garde des Sceaux, l'état de la justice et les moyens à lui consacrer semblent faire consensus. C'est du moins la perception qu'on a donnée l'absence de discorde ou de points de rupture dans les débats parlementaires ayant précédé la promulgation des lois justice en fin d'année dernière. Dans ce contexte actuel qui succède à un état de crise régulièrement évoqué au cours de vos réflexions, et je pense notamment aux travaux du président Bruno Cotte, ceux du 9 novembre 2020 relatifs à l'influence de l'émotion et de l'opinion dans une loi pénale, dans ce contexte actuel, disais-je, dont le président Jean-Marc Sauvé vous a brillamment présenté les causes multifactorielles, je vous remercie de me donner la parole pour traiter d'une des questions plus précises posées en 2024, qui est juge. Ce questionnement est effectivement d'une grande actualité, car l'institution judiciaire et singulièrement le recrutement et la formation de celles et ceux qui rendent ou rendront la justice au nom du peuple français, connaît actuellement des bouleversements d'ampleur que d'aucuns qualifient, selon une expression devenue très à la mode, de changement de paradigme. La réflexion du juriste passe habituellement par un travail de qualification afin de permettre un cadre d'application de la règle aux faits qui lui sont soumis. Je suivrai ainsi cette méthodologie dans mon propos introductif afin de délimiter l'approche que j'entends donner au présent exposé. Si en République française, il est plusieurs ordres de juridiction et donc plusieurs catégories de juges, l'ordre judiciaire sera au centre de mon propos. Au sein de cet ordre judiciaire, le juge et le procureur appartiennent au corps de la magistrature. Ce corps de la magistrature judiciaire est unique pour des fonctions très diverses. L'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que tout magistrat a vocation à être nommé au cours de sa carrière à des fonctions du siège et du parquet. Ainsi, la question de savoir qui est juge en 2024 dans l'ordre judiciaire s'entend de celle de savoir qui est magistrat de l'ordre judiciaire. Les chiffres disponibles en 2023 donnent une première réponse quantitative. 9 271 magistrats de l'ordre judiciaire constituent l'ensemble du corps. Parmi eux, 8 524 sont affectés en juridiction. Voici donc un premier élément de cadrage, et si vous le voulez bien, ce sont ces 9 271 magistrats judiciaires qui seront l'objet des développements suivants. Depuis 1958 et la création du Centre national des études judiciaires, qui prendra la dénomination d'École nationale de la magistrature en 1970, les 9 271 magistrats actuellement en activité ont tous et toutes été recrutés et formés ensemble dans la même école, et ce dans une perspective identique de rejoindre les fonctions du siège comme du parquet. Être magistrat en 2024, c'est-à-dire juge et procureur ou procureur, c'est d'abord, en référence à l'article 66 de notre Constitution, être gardien de la liberté individuelle. Expression au vaste champ qui, aujourd'hui, confine au pluriel et c'est heureux dans un état de droit. Être magistrat en 2024, c'est intervenir dans chacun des domaines de la vie économique et sociale, c'est toucher à l'intime, protéger les intérêts de l'enfant, ceux des personnes vulnérables, conduire des enquêtes, instruire à charge et à décharge, placer en détention provisoire ou en détention définitive, rétablir des équilibres patrimoniaux, prendre des réquisitions dans l'intérêt de la société lors de l'audience pénale, veiller à la bonne exécution des peines. Et bien que l'école que j'ai l'honneur de diriger se voit depuis 2009 chargée de former un nombre toujours plus grand de juges non professionnels, les plus nombreux étant les conseillers prud'hommes, suivis de près par les magistrats à titre temporaire, les juges consulaires et, comme cela, 9 autres publics, je les exclurai à regret de mon propos afin d'en permettre une plus grande clarté. En effet, au-delà du temps qui m'est imparti et que je souhaite respecter, il me semble à la fois plus clair et surtout porteur de sens de porter notre regard sur les seuls magistrats professionnels de l'ordre judiciaire. Ce préambule méthodologique étant posé, l'idée générale que j'entends développer devant vous tient principalement dans le fait que le magistrat d'aujourd'hui, qu'il soit du siège ou du parquet, est détenteur d'une culture professionnelle dont l'École nationale de la magistrature constitue le creuset et qui fait sens commun à l'ensemble du corps de la magistrature. Mais la magistrature, qui se doit d'être connectée à la société et aux attentes que ses représentants et les justiciables expriment, connaît ces derniers temps des évolutions structurelles qui distinguent la magistrature du XXIe siècle de celle du siècle précédent. Aussi m'efforcerai-je, à partir de maintenant, d'exposer dans une première partie de mon propos ce qui me semble faire unité dans le corps de la magistrature judiciaire pris dans son entièreté, et j'évoquerai l'ENM comme l'alma mater de tous les magistrats judiciaires. Puis, dans un second temps, je vous propose d'envisager certaines des principales évolutions en cours qui distinguent de leurs aînés les jeunes magistrats ayant pris leurs premières fonctions ces dernières années, et j'y inclurai les élèves de la promotion 2022 qui, après leur formation initiale à l'ENM, doivent rejoindre leur poste en septembre 2024. Ce sera donc la seconde partie de cet exposé que j'ai intitulé « Un corps en évolution accentuée ». Prenons donc, si vous le voulez bien, l'ENM comme l'alma mater, la mère nourricière de tous les magistrats judiciaires. L'entrée des futurs magistrats à l'ENM ne réalise l'homogénéisation d'un corps professionnel qu'à l'issue d'un processus d'initiation qui suppose une transmission. L'école va ajouter à l'auditeur de justice l'épaisseur d'un savoir expérientiel qui les réunit autour d'une même identité professionnelle. Comme l'a écrit Régis Debray, la transmission, gardienne de l'identité du nous, assure la survie du groupe par le partage entre individus de ce qui leur est commun. Pas de transmission sans organe de transmission. Autrement dit, avec mes mots, si un corps existe comme une forme collective, c'est qu'il peut assurer institutionnellement le passage d'hier à aujourd'hui d'un corpus de connaissances, de valeurs, de savoir-faire, de savoir-être qui donne au groupe sa stabilité. L'École nationale de la magistrature est probablement ce qui unit et réunit l'ensemble du corps des magistrats judiciaires. Elle est ce passeur de transmission. Plus encore, l'attachement quasi filial à cette école, de la part de tous les magistrats, juges ou procureurs en 2024, constitue à la fois un point d'ancrage et un sens commun qui permet à des générations différentes composant le corps de la magistrature de se reconnaître, de se vivre comme un tout qui a sa part de cohérence, d'homogénéité. Cela au-delà des différentes voies d'accès à l'école au nombre de 11 en l'état actuel du statut de la magistrature, au-delà également des parcours de carrière qui varient inévitablement. À mes débuts de fonction, j'ai été immédiatement frappée par diverses choses que j'aimerais partager avec vous. La force unificatrice du rite, celle de l'architecture et du temps passé à l'école. Au-delà des analyses et réflexions auxquelles j'entends me référer, deux expériences qu'il m'a été donné de vivre dès mon arrivée à la direction de l'École nationale de la magistrature m'ont convaincue de la place centrale de l'école dans le processus d'identification professionnelle des magistrats. D'abord, mes premiers échanges avec mes prédécesseurs directeurs et les chefs de la Cour de cassation qui assurent la présidence pour le premier président de la Cour de cassation et la vice-présidence pour le procureur général de la Cour de cassation du conseil d'administration de l'école. Chaque échange avec cette haute magistrature m'a montré que leurs différences de parcours sont transcendées par un attachement qu'ils qualifient rapidement de viscéral à l'école, leur école. La force de l'émotion perceptible dans leurs propos fut pour moi un premier constat que la suite de mon premier mandat allait totalement confirmer. Il y a quelque chose de quasi filial, voire passionnel, dans le rapport des magistrats à leur école, l'ENM et leur matrice, la matrice des magistrats de l'ordre judiciaire. Ensuite, autre expérience, la prestation de serment de ma première promotion d'élève magistrat en 2021. Rite de passage à la symbolique extrêmement puissante, puisqu'il marque le changement d'état des lauréats des différentes voies de recrutement. Ils étaient étudiants, fonctionnaires, anciens avocats, directeurs de greffe, juristes assistants. Imaginez-les revêtus de leur costume d'audience, toques et gants blancs à la main. Ils pénètrent dans l'immense salle des pas perdus de la cour d'appel de Bordeaux. Cette juridiction, placés sous la double protection de Montaigne et Montesquieu, reçoit alors leur serment. « Je jure de garder le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice. Entourés de leurs proches qui assistent à cette cérémonie, les élèves sont profondément émus. Mais au-delà, ils entament dès cet instant leur mue, leur processus de transition vers la magistrature judiciaire. Ils se préparent à leur naissance de magistrat. Il n'est pas anodin non plus, je pense, que le salon d'honneur de l'École nationale de la magistrature arbore sur ses murs et les portraits de l'ensemble des directeurs de l'école qui se sont succédés depuis sa création en 1958 et les photographies des promotions réunies soit pendant, soit immédiatement après cette prestation de serment. Dans cette salle, la mise en scène du processus de transmission par les pairs éclaire sur la place et le rôle de l'École nationale de la magistrature pour l'ensemble du corps judiciaire. Ensuite, l'architecture du siège de l'école, située à Bordeaux, à proximité de la cour d'appel et du tribunal judiciaire depuis 1972, protégée par les vestiges rénovés du vieux fort du Ha, conçu par le roi de France Charles VII, qui, aussitôt victorieux de la bataille de Castillon en 1453, décide de faire élever aux deux extrémités de la ville de Bordeaux deux forteresses, autant pour contrôler la cité et ses habitants que pour la défendre d'attaques extérieures. Et au sud-ouest, le fort du Ha est édifié à partir de 1456. D'abord dédié à la défense de la ville, il va devenir un lieu d'incarcération, voire d'exécution capitale sous la Révolution française, ou plus récemment, le 21 juin 1960, lorsque le parricide René Pons est guillotiné dans cette cour du fort du Ha. C'est sur cette histoire et dans ce lieu, isolé du reste de la ville par ses hauts murs, cette muraille médiévale, que l'architecte Guillaume Gillet, qui a acquis sa renommée dans la réalisation de bâtiments religieux et de prisons, élabore un bâtiment tourné vers la pédagogie, mais qui bénéficie des vestiges du poids de l'histoire, et notamment de deux tours, dont le dernier étage de l'une contient une réplique de la salle d'audience qui est dédiée aux simulations effectuées par nos élèves. Ainsi, abritée par cette architecture, l'école est située dans l'îlot judiciaire. Dans ce site, les élèves magistrats se sentent en confiance. Interrogés par le service de la communication de l'école dernièrement, les deux délégués de la promotion 2022 décrivaient leur vision de leur école comme celle, et je les cite scrupuleusement, d'un cocon. Dans ce processus de construction de l'identité professionnelle à travers la formation et le lieu, comment ne pas évoquer le temps de scolarité suivi par la majorité des élèves magistrats à l'école et qui s'avère le plus long de toutes les écoles de service public. Si depuis la création de l'École nationale de la magistrature en 1958, cette durée de formation a varié dans le temps, d'abord de 18 mois, puis 2 ans, puis 31 mois, cette dernière durée est stabilisée à compter du début des années 1980. En sus de cette longueur de temps de formation qui participe à la profondeur de la mue effectuée par les élèves, ces derniers demeurent dans les murs de l'école durant presque 10 mois, pendant lesquels ces élèves se vivent en tant que promotion. Promotions qui sont nommées par décision des élèves et d'eux seuls, marquant ainsi tout à la fois leur identité propre, mais également l'inscription dans l'histoire des promotions qui se succèdent. Depuis que je suis arrivée, les promotions ont pris nom Gisèle Halimi, Tribune des 3000, puis François Molins. Les élèves magistrats nomment leur promotion selon le message qu'ils ont souhaité délivrer au reste du corps et à l'extérieur. Pendant 10 mois, les élèves sont au contact quasi quotidien avec leur formateur permanent. Cela principalement en petits groupes d'une vingtaine d'élèves afin de favoriser l'apprentissage par interaction. À ce jour, et j'y reviendrai dans la seconde partie de cet exposé, l'ensemble des formateurs est issu du corps de la magistrature judiciaire. Tous sont détachés à l'école pendant 3 à 6 ans, de sorte qu'ils n'exercent plus aucune fonction juridictionnelle dans les juridictions. Ils forment le cadre enseignant de l'école, ils sont en détachement, ils assurent ainsi le processus de transmission par les pairs qui est, depuis la création de l'école, cette pierre angulaire de la formation des futurs magistrats. Ce point commun aux différentes générations de magistrats est d'autant plus important dans leur processus de construction d'identité professionnelle que l'ENM est, là encore, une des rares écoles du service public à bénéficier d'un corps aussi important de magistrats enseignants, plus de 90 actuellement sur l'école. La transmission d'un socle de valeurs et de codes propres au corps de la magistrature est aussi, de mon point de vue, un point à relever. Dès leur premier pas à l'École nationale de la magistrature, et encore une fois, quelle que fût leur voie de recrutement, les élèves sont amenés à s'approprier, durant toute leur scolarité, des valeurs cardinales, mais aussi des codes qu'ils vont devoir appliquer dès le début de leur formation. Si leur place a crû au fil des années et leur contenu s'est enrichi, les valeurs caractérisant la place de l'autorité judiciaire dans l'État d'abord, mais aussi dans la société, sont immédiatement appréhendées par les élèves dès leur arrivée à l'école. Ces valeurs ou systèmes de valeurs consistent en un savant alliage entre principes constitutionnels, au premier rang desquels l'indépendance de l'autorité judiciaire, dont le président de la République est le garant au terme de l'article 64 de la Constitution, les valeurs de la République, la plupart des grands principes du service public, continuité, égalité, neutralité, mutabilité, et les obligations déontologiques, impartialité, délicatesse, intégrité, probité, conscience professionnelle, respect et attention portée à autrui, réserve et discrétion. Tout au long de leur formation, mais également dans la suite de leur carrière, les membres du corps de la magistrature sont, pour l'écrasante majorité d'entre eux, imprégnés de cet ensemble éthique et déontologique. Le corps lui-même y est particulièrement attentif, qu'il s'agisse des chefs de juridiction à travers les entretiens déontologiques, du Conseil supérieur de la magistrature qui actualise le recueil des obligations déontologiques et a mis en place un service d'aide et de veille déontologique, ou encore le Collège de déontologie issu de la loi organique du 6 août 2016. Enfin, et ce n'est pas la moindre des caractéristiques du juge de 2024, prolongeant pour une bonne part un des traits de ceux que l'on désignait au XIXe siècle sous l'appellation des gens de justice, les membres du corps de la magistrature atteignent une maîtrise très raffinée d'un langage à fort contenu d'acronymes. Aucune chance de vous y retrouver si vous ne maîtrisez pas les CA, les TJ, les PPP, les CHINS, les TC, les TPE, les CRPC, les GEX, etc. Rappelant celles d'autres professions, les membres du corps de la magistrature manient un langage très hermétique pour les justiciables, ce qui fait dire par ces derniers que la justice est peu claire, peu lisible, peu compréhensible. La place et le rôle assumés par l'École nationale de la magistrature dans la structuration unitaire du corps des magistrats judiciaires ne s'arrêtent pas à la formation initiale, et j'aimerais dire un mot de la formation par l'École nationale de la magistrature tout au long de leur carrière. Si sur le plan statutaire, il a fallu attendre la réforme issue de la loi organique de 2008 pour que la formation continue annuelle devienne une obligation s'imposant à l'ensemble des magistrats judiciaires, la formation continue s'est mise en place dès les années 1980. Pour une part, sur le modèle de la formation initiale, puisqu'elle est conçue par un corps de formateurs permanents, également composé exclusivement de magistrats judiciaires à ce jour, placés en position de détachement à l'école. Cette formation se concrétise par une offre de formation d'aujourd'hui près de 600 sessions, qui sont des cycles plus ou moins longs de formation continue, mais aussi par une politique de formation continue déconcentrée, co-animée dans la cour d'appel par leur chef et par un magistrat de l'ENM qui est dénommé coordonnateur régional de formation, ayant vocation à suivre en région, outre le développement de cette formation continue, l'accompagnement, l'évaluation des élèves magistrats en stage qui, même au-delà des murs de l'école de la magistrature de Bordeaux, continuent d'être suivis par nos magistrats. Cette formation continue actualise et pérennise le socle de valeurs évoqué plus haut. Elle permet aux membres du corps de la magistrature de se retrouver hors de leur juridiction d'affectation pour un temps de formation plus ou moins long. Cette action contribue au maintien du lien fort entretenu par les magistrats judiciaires avec l'école dont ils sont issus. elle est souvent vécue comme un espace de respiration, de régénération par celles et ceux, un peu plus de la moitié du corps de la magistrature chaque année, qui s'acquittent de leur obligation statutaire. Dans leur rapport de juin 2019, les sociologues Johan Demoly et Laurent Villemez concluent ainsi leurs travaux sur le corps de la magistrature. Ce corps existe donc bien, et il a une âme, pour reprendre la métaphore de Jean-Luc Bodiguel. Cette âme, c'est l'ENM qui la lui donne, de même que tous les mécanismes institutionnels de production de l'identité de magistrat, la relative ressemblance entre toutes les carrières, et enfin les hiérarchies symboliques qui structurent le groupe. Cette âme, on la retrouve aussi dans les pratiques professionnelles, autour de conditions de travail finalement plutôt communes, du moins si l'on en regarde les difficultés. C'est surtout le débordement du travail et la difficulté à séparer la vie privée de la vie professionnelle du fait d'une trop grande qualité de travail. Ces éléments ne se retrouvent bien sûr pas d'une manière tout à fait homogène au sein du groupe, et selon les juridictions, les types de juridictions, mais aussi les lieux, la vie au travail est très différente. Pour autant, c'est bien une communauté de conditions de travail qui se donne à voir. Cette identité de corps n'est bien entendu pas en opposition avec des diversités internes. Diversité dans les pratiques professionnelles, diversité aussi dans les manières de se représenter la profession, et donc finalement, probablement, diversité dans les façons de juger. J'en termine ainsi avec une première partie de réponse à la question qui est juge en 2024 et avec ses données. Qui est juge ? Plutôt une femme. Le corps est féminisé à plus de 60%. Dans une position du premier grade, le corps compte 3 grades. Le second, le premier, ce dernier étant majoritaire, et la hors hiérarchie, qui est très minoritaire, est moins féminisée que les 2 autres. Issue du premier concours national, du premier concours d'accès à l'École nationale de la magistrature, environ 69% du corps, et dans des fonctions du siège. Une magistrate, donc, pour répondre à la question, attachée à son école, porteuse des valeurs et code de son corps d'appartenance. Toutefois, et c'est là un complément absolument nécessaire au traitement de la question qu'il m'est proposé de traiter, plusieurs facteurs associés contribuent à identifier, depuis le début du XXIe siècle, avec une réelle accentuation à l'heure actuelle, des caractéristiques propres aux dernières générations de magistrats. Cette évolution permettant, selon moi, une nouvelle représentation du corps, plus en phase avec le monde d'aujourd'hui, plus connectée aux attentes sociétales. Cela sans pour autant amoindrir, ni moins encore supprimer, tout ce que je viens de décrire qui est constitutif du juge de 2024. J'aimerais donc aborder la seconde partie de ce propos pour évoquer ce corps en évolution accentuée. Uni par sa formation à l'ENM, par ses valeurs, ses codes, ses rites, le corps de la magistrature en 2024 connaît, ces dernières années, des transformations plus ou moins silencieuses, plus ou moins visibles. Les principales que je souhaite souligner devant vous relèvent de 2 grandes séries de causalités d'origine différente. Certaines sont exogènes. Je veux désigner à travers cette catégorisation les évolutions marquantes qui ne proviennent pas directement du corps de la magistrature lui-même. En d'autres termes, les tendances récentes que je souhaite souligner lui sont imposées. D'autres sont endogènes. Elles sont le produit des réflexions et actions de l'institution judiciaire elle-même qui s'inscrit dans une forme d'en même temps composée de la préservation de tout ce qui participe de la singularité du corps de la magistrature dans l'administration de l'État. Je songe notamment à l'indépendance marquée et toujours revendiquée à l'égard de l'exécutif, à quelque échelon et niveau que ce soit, avec parfois le risque de paraître s'ériger en contre-pouvoir offensif, et en même temps d'une modernisation réelle insufflé dans les méthodes de travail, la remise en cause de l'intégration d'une performance dans les processus auxquels les juges et procureurs de 2024 contribuent au quotidien, le développement aussi de nouveaux champs d'action judiciaire. Ce sont donc l'ensemble de ces évolutions sur lesquelles je souhaite m'arrêter dans la suite du propos pour tenter d'achever, si tant est que cela soit possible, ma réponse à la question qui est juge en 2024. Commençons, si vous le voulez bien, par les transformations exogènes. Ou trop. La première transformation que je souhaite évoquer me permet également une forme de clin d'œil à vos réflexions et travaux. Je veux parler de la place et des conséquences de ce que l'histoire récente a qualifié d'affaire ou de traumatisme d'outreau. Une affaire judiciaire qui s'est transformée en interrogation non teintée d'accusation de la société à l'égard de sa justice et de la manière de former les juges. Cette affaire d'outreau a entraîné pour les juges et procureurs, pour l'institution judiciaire dans son entier et pour l'école que j'ai l'honneur de diriger, des conséquences profondes et encore perceptibles aujourd'hui. Le 12 juin 2006, ici, dans ce lieu chargé d'histoire, Pascal Clément, garde des Sceaux et ministre de la Justice, évoquait devant votre académie les grands traits des réformes lui paraissant nécessaires à la suite de l'affaire Outreau. Permettez-moi de le citer. C'est donc une partie de la culture judiciaire, heureusement minoritaire, que je souhaite faire évoluer, celle qui considère que le magistrat est un homme qui travaille seul, dans le secret, et dont le travail est terminé lorsque le jugement ou l'arrêt a été rédigé. Cette culture de la pédagogie, c'est l'École nationale de la magistrature qui doit l'enseigner, comme l'avait déjà décidé mon prédécesseur Michel Debré en créant le Centre national d'études judiciaires en 1958. Et dans les propos qui suivirent, c'est assez naturellement sur l'École nationale de la magistrature que les évolutions attendues vous étaient exposées. 2008 est ainsi une année charnière pour l'École nationale de la magistrature, mais aussi pour l'ensemble du corps de la magistrature. En 2008, la direction de l'École nationale de la magistrature, la direction de l'école, a mené une réforme globale, systémique, des modalités de recrutement, avec l'introduction de tests psychologiques, la présence d'un psychologue dans le jury des concours, la mise en place d'une épreuve de mise en situation. C'est aussi l'époque qui a vu naître un département de la recherche à l'école, qui a provoqué la refonte structurelle de la pédagogie, avec des pôles transversaux d'enseignement à la tête desquels des non-magistrats sont désignés, un allongement du stage avocat de 2 à 6 mois sans modifier les 31 mois de la scolarité, qui a mis en place une évolution chiffrée des élèves durant toute leur scolarité et qui a développé l'ouverture de l'école sur l'extérieur et l'international. Le temps qui m'est imparti ne me permettra pas de vous détailler l'intégralité des modifications induites au cours de cette période. Mais ainsi que cela ressort des cérémonies du soixantenaire de l'École nationale de la magistrature en 2019, il y a incontestablement, dans l'entièreté du corps de la magistrature, je veux dire chez chacun des 9271 magistrats, un avant et un après Outreau. Et les jeunes générations, ou les générations de magistrats issus des recrutements postérieurs à 2009, se distinguent assurément de leurs prédécesseurs à plusieurs titres. Contrairement à leurs aînés, ils ont connu un mode de sélection différent. Leur scolarité a été beaucoup plus évaluée, contrôlée, que celle vécue auparavant. Leur période d'études dans les murs de l'école s'est notoirement densifiée et technicisée. Là où ce temps de formation essentiel à l'unité du corps était d'abord tourné vers l'appréhension de la place du juge dans la société, son éthique, et l'apprentissage des techniques de base mises en œuvre dans les différentes fonctions accessibles à la sortie de l'école, il est devenu, ce temps de formation, une sorte de millefeuille fait de couches d'enseignement que l'on ajoute les unes aux autres, saupoudrées d'anxiété croissante, tant pour les élèves que leurs formateurs. L'idée des uns, les élèves, étant de performer pour s'assurer un classement ouvrant sur un véritable choix du premier poste, et pour s'estimer prêt à conduire l'action publique, à juger, à instruire, à présider des audiences, à rédiger des décisions, pendant que les autres, je vise les enseignants, redoublent d'énergie pour apporter aux élèves un corpus toujours plus technique, toujours plus détaillé, toujours plus précis, afin de rassurer ou de tenter de rassurer les élèves sur leur capacité à affronter les évaluations durant le stage juridictionnel. Mais l'impact de l'affaire Outreau ne s'est pas limité à l'ENM. Il a aussi touché le corps de la magistrature dans ses institutions. C'est la composition du Conseil supérieur de la magistrature qui a été modifiée, avec une majorité de non-magistrats, afin, selon le ministre précédemment cité, d'éviter la suspicion de l'entre-soi dans l'exercice du pouvoir disciplinaire. C'est la présidence de cet organe constitutionnel qui n'est plus confiée au président de la République ou en son absence au garde des Sceaux, mais au premier président de la Cour de cassation, et s'agissant de la formation compétente pour les magistrats du parquet, au procureur général près la Cour de cassation. Cette concentration, la concentration de cette présidence du CSM, de la Cour de cassation et de la présidence et du vice-président du Conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature entre les mains des deux plus hauts magistrats judiciaires de France n'est, je le crois, pas anodin ni dépourvu d'effet en termes d'esprit du corps. C'est aussi le statut de la magistrature qui est toiletté en rendant obligatoire la formation continue annuelle de chaque magistrat, mais aussi en imposant aux magistrats envisageant d'accéder au plus haut grade de la magistrature, à savoir la haute hiérarchie, une obligation de mobilité externe, celle-ci pouvant s'effectuer au ministère de la Justice et dans tout corps de catégorie A. La mise en œuvre de cette dernière mesure n'a toutefois, et très malheureusement de mon point de vue, pu être maintenue pour des raisons tenant à la gestion de la pénurie des emplois de magistrats. N'oublions pas en effet que lors de ces mêmes années, 2008-2012, ce ne sont pas des créations de postes de magistrats ni non plus de greffiers qui sont réalisées, mais des destructions. Les promotions d'élèves magistrats se réduisent. Les vacances de postes dans les juridictions atteignent et dépassent la barre des 500. Mais les juges et procureurs tiennent, parlant régulièrement dans leur discours de rentrée solennelle d'un miracle judiciaire ou d'une institution profondément résiliente permettant à la justice de continuer d'être rendue. Il est difficile de ne pas voir dans certains des changements induits par l'affaire d'Outreau les prémices de ce que je vais prudemment désigner de la manière suivante. La tendance croissante aux difficultés de compréhension réciproque entre les juges et les autres pouvoirs, notamment le pouvoir exécutif. Pour les générations de magistrats ayant débuté leur carrière dans les années 90, qui ont connu une culture d'organisation très hiérarchisée, qu'il s'agisse du siège ou du parquet, l'exercice des fonctions juridictionnelles en 2024 est tout à fait différent. Au-delà des particularismes propres à chaque situation, et donc avec beaucoup de prudence, je me risque à avancer que les motions prises en Assemblée générale dans presque toutes les juridictions de France dénonçant la situation du garde des Sceaux, ministre de la Justice, peu après sa nomination, sont aussi la conséquence des évolutions que je viens d'évoquer. J'aimerais ensuite partager avec vous les conséquences de l'insoutenable inflation normative. Dénoncée dans les rapports annuels de la Cour de cassation comme du Conseil d'État dès les années 1990, l'inflation législative, la pénalisation croissante de la vie politique ou encore la judiciarisation des relations sociales ont pris au XXIe siècle une dimension supplémentaire. Pas un quinquennat, pas une mandature sans réforme législative impactant l'institution judiciaire, c'est-à-dire les juges et les procureurs. En ce début d'année 2024, ils doivent mettre en place les pôles violences intrafamiliales après avoir pensé et organisé le déploiement des nouveaux outils de l'amiable. En 2020, ils ont été conduits à appliquer une nouvelle procédure civile, un nouveau régime de détermination et d'exécution des peines, une fusion entre les anciens tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, le tout sous le sceau de la pandémie et de ses effets connus de tous. Si en ma qualité de directrice de l'École nationale de la magistrature, je bénéficie d'un lieu d'observation précis de ce phénomène, puisqu'il conduit les équipes pédagogiques de l'école à actualiser sans cesse et chaque année les fascicules et enseignements pour coller à l'actualité juridique, je soumets l'idée que la nouvelle dimension de cette inflation normative est productrice d'au moins deux effets sur les juges et procureurs. L'un est éminemment positif et rassurant aussi pour nos concitoyens. L'adaptabilité permanente des membres du corps de la magistrature pour comprendre, digérer et intégrer dans leur pratique ces modifications permanentes. Mon expérience d'avocate me permet de mesurer à sa juste réalité cet effet qui caractérise aussi la profession d'avocat. Mais l'autre est négatif. Il entraîne de réelles tensions chez les juges et procureurs, mais aussi chez les greffes et les avocats. Surtout, il nourrit abondamment le sentiment d'abandon et de détresse qui s'est exprimé sous la forme d'un tsunami, la fameuse tribune des 3000, signée par plus de 7000 magistrats. Loin de moi l'idée d'avancer que l'inflation normative soit la seule cause de cette démarche inédite pour un corps qui est habituellement avare de manifestations collectives. Mais cette expression, que j'évoquerai plus avant en ce qu'elle est une démarche endogène, venant du cœur du corps de la magistrature pour atteindre ensuite l'esprit des plus hauts magistrats de France, puise aussi sa cause dans ce phénomène d'inflation normative accrue au XXIe siècle. L'ouverture du corps de la magistrature, telle qu'étudiée dans le rapport de juin 2019, suscitée, les sociologues, dans ce rapport, les sociologues Johan de Molly et Laurent Villemez, ont décrit le corps de la magistrature comme jeune, puisqu'unifié en 1958 par la création de l'ENM, sous l'appellation du Centre national d'études judiciaires. Ils soulignent dans leur introduction que sur un plan politique, l'identité de ce corps a été remise en cause à plusieurs reprises, en particulier à travers l'expertise et le savoir-faire des magistrats. Accusés tantôt d'être trop juristes et trop perméables et trop techniques, tantôt, au contraire, d'être trop politiques et trop perméables à la société et aux demandes politiques et sociales. Les magistrats ont essuyé de nombreuses critiques. Les solutions préconisées ont souvent été de transformer la composition sociale du groupe, soit pour la fermer, soit le plus souvent pour l'ouvrir. Et dans son discours prononcé en 2006 devant votre académie, le garde des Sceaux Pascal Clément soutenait la nécessité d'ouvrir un corps au sein duquel le concours étudiant demeurerait, et il le demeure encore à ce jour, la voie prépondérante d'accès à la magistrature. Pour autant, ces dernières années, il faut relever que la part des recrutements de magistrats en dehors du concours étudiant augmente pour s'établir en moyenne à environ 40% chaque année. Le comité des sages des États généraux de la justice, à l'issue d'un travail d'une profondeur et d'un aboutissement jamais mené ni atteint sous la Ve République concernant la justice judiciaire, promeut la poursuite de la diversification des recrutements dans la magistrature. Il souligne l'utilité de l'intégration de magistrats ayant exercé la profession d'avocat, compte tenu de leur formation et de leur connaissance intime du fonctionnement de l'institution judiciaire et des principes fondamentaux du procès civil, comme de l'importance des droits de la défense. Les propositions contenues dans les projets de loi justice, et notamment la création du nouveau concours professionnel, sont de nature à favoriser aujourd'hui une dynamique de diversification des profils des futurs magistrats et, je le souhaite, un rééquilibrage à terme du corps de la magistrature. J'ai de bonnes raisons d'envisager que ces souhaits partagés soient prochainement exaucés à travers la mise en œuvre dès 2025 de ce concours professionnel, ainsi qu'il est qualifié, qui est donc destiné aux professions du droit disposant d'une expérience de 3 ans pour les juristes assistants, 5 ans pour les avocats, directeurs de greffe ou docteurs en droit, et 7 ans pour les autres professions. Soyez en tout cas assurés de la mobilisation de mes équipes sur la mise en place de cette nouvelle voie de recrutement, porteuse d'augmentation de la diversification des profils rejoignant le corps de la magistrature. Mais cette ouverture ne passe pas uniquement par le recrutement. Ce dernier assure l'ouverture au sein du corps. Mais je souhaite aussi évoquer les actions prises depuis mon arrivée à l'école pour l'ouverture du corps des magistrats vers l'extérieur, qui se développe et transforme ainsi les magistrats d'aujourd'hui, cela de différentes manières. Tout d'abord, la création, en 2021, d'un tronc commun de formation initiale pour 8 puis 14 et dorénavant 21 grandes écoles du service public. Il s'agit là d'une des concrétisations des propositions formulées par M. Frédéric Thiriez dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par le président de la République. Ce tronc commun de formation, que nous avons conçu à grande vitesse, presque à marche forcée, entre novembre 2020, moment de mon arrivée, et juillet 2021, se déploie essentiellement sous forme de e-learning, autour de 6 thématiques communes qui font l'objet de ces enseignements. Principes et valeurs de la République, transition écologique, transition numérique, rapport à la science, précarité, pauvreté, et dernière thématique intégrée l'an dernier, les enjeux de sécurité et souveraineté. Le tout pour une 100aine d'heures d'enseignement obligatoire intégrées dans les programmes pédagogiques des 21 grandes écoles au champ de formation très varié. Très varié puisque, outre l'ENM, l'École nationale de l'administration pénitentiaire, l'Institut national du service public, l'École des officiers de la gendarmerie nationale pour le régalien, on trouve aussi les écoles d'ingénieurs, les mines, ParisTech, AgroParis, l'École supérieure vétérinaire, entre autres. Ces enseignements que nous avons co-construits à l'école s'accompagnent d'un temps de travail en commun, en présentiel, à travers des groupes constitués autour d'une petite vingtaine d'élèves de ces différentes écoles pour traiter d'une thématique pouvant en règle générale correspondre à l'un des 6 modules constitutifs du tronc commun que j'ai évoqué à l'instant. Le tout sous l'animation d'un coach avec l'intervention d'un professionnel issu d'une des écoles représentées au sein de ce groupe. Pour le corps de la magistrature, un corps relevant de la haute fonction publique d'État, mais avec un statut dérogatoire et des principes qui le singularisent, au point qu'il m'a été récemment permis d'entendre un ancien procureur général ayant été membre du CSM soutenir qu'aujourd'hui, travailler avec un préfet est source de questionnement pour un magistrat du parquet, ce tronc commun, me semble-t-il, est porteur d'un potentiel de modification de la perception du corps de la magistrature dans l'État et d'amélioration du dialogue que les autres corps de la haute fonction publique peuvent nouer avec un corps de la magistrature qui reste, hélas, assez méconnu. Les élèves de la promotion 2022, qui vont donc prendre leur premier poste en septembre 2024, seront porteurs de cette nouvelle culture dont je souhaite qu'elle prospère chez les magistrats. Autre axe d'ouverture et de dialogue par le développement des relations suivies avec plusieurs écoles du réseau des écoles du service public dont l'ENM est membre. L'école de la magistrature accueille des élèves de l'École nationale des greffes, de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'École nationale supérieure de la police, de l'École des officiers de la gendarmerie nationale pour partager des temps communs avec nos élèves magistrats, ces derniers se transportant également dans ces autres écoles du réseau des écoles du service public. J'ajoute aussi la réalisation depuis plusieurs années de 2 semaines dites AIACOS dans le cadre du réseau de formation judiciaire européen qui permet ainsi à nos magistrats formés à Bordeaux d'aller voir ce qui se passe au-delà des frontières. L'ouverture vers l'international est incontestablement un des marqueurs de la magistrature formée au XXIe siècle. Dernière illustration de cette ouverture qui caractérise la magistrature recrutée et formée au XXIe siècle, une illustration qui m'est chère, le développement des relations avec la profession d'avocat. Beaucoup, beaucoup a été écrit sur la dégradation des relations de profession qui pourtant partagent tant au-delà des palais de justice. Beaucoup est fait aussi, et c'est d'une importance cruciale pour la magistrature, pour la profession d'avocat et surtout pour le bon fonctionnement de la justice, dans le sens d'un travail de fond destiné à renouer les liens distendus au fil du temps. Le développement en formation initiale, et j'y tiens vraiment énormément, de l'accueil d'au moins un stagiaire élève avocat par petit groupe d'une vingtaine appelé direction d'études, durant toute la période de formation que les élèves magistrats passent dans les murs de l'école, est une action sur laquelle je mets beaucoup d'énergie. L'accent mis dans les programmes de formation des élèves magistrats, comme de leurs homologues avocats, sur les déontologies respectives, mais aussi sur les voies susceptibles de renouer le dialogue lors de situations tendues à l'audience, à travers notamment les conclusions du Conseil consultatif conjoint de déontologie de la relation magistrat-avocat. Cela participe aussi à cette ouverture du corps de la magistrature, à cette meilleure compréhension par une multiplication des actions de formation continue communes aux deux professions. Un mot également, et qui mériterait plus qu'un mot, c'est la mise en œuvre de la politique égalité des chances. fortement inspiré de l'expérience mise en place par l'Institut d'études politiques de Paris au début des années 2000, nous avons souhaité développer des classes prépa-talents. Ces classes prépa-talents, qui s'appuient sur des classes préparatoires intégrées qui avaient été initiées dès 2008, accueillent, après les avoir sélectionnées sur dossier puis un entretien, des étudiants méritants car boursiers de l'enseignement supérieur. Consciente de l'importance de ce dispositif qui a rapidement connu un réel succès, j'ai dès mon arrivée à l'école pris la décision de le développer notamment sur les territoires avec un maillage rural, mais aussi d'en renforcer l'efficacité en faisant en sorte qu'il puisse bénéficier du label classe prépa talent. Et ainsi, ce sont aujourd'hui 6 classes prépa talent ENM gérées par l'école qui constituent notre réseau, au-delà des 3 qui existaient à mon arrivée à Douai-Paris-Bordeaux, j'ai souhaité ouvrir les classes prépa-talents d'Orléans, Besançon, Lyon et bientôt, cette année, Limoges. La perspective en 2025 et 2026 d'un concours talent, validé le 16 novembre dernier par le Conseil constitutionnel dans le cadre de l'examen de la loi organique relative à l'ouverture, à la modernisation et responsabilité du corps judiciaire, et qui consiste dans la réservation d'un quota de places offertes au premier concours au profit des seuls élèves des classes prépa-talents, permettra demain d'accroître encore l'efficacité de cette politique qui a un sens particulier s'agissant du recrutement de futurs juges et procureurs amenés à rendre la justice au nom du peuple français. Je fais en effet partie des convaincus qu'une justice rendue par des femmes et des hommes représentatifs de la diversité de la société française et gage de confiance des citoyens en leur justice. Ma volonté en la matière est forte afin de participer à la réduction des inégalités sociales et géographiques également et de contrebalancer ce grippage constaté de l'ascenseur républicain. Les récents résultats du concours d'accès 2003 qui nous permettront dès le 5 février 2004, demain, d'accueillir la promotion la plus importante de l'école que vous avez évoquée, plus de 470 auditeurs de justice. Cela témoigne de l'efficacité de notre dispositif égalité des chances, puisque plus de 20 élèves issus de ces classes prépa-talents de l'ENM seront inscrits sur une centaine d'élèves qui ont suivi nos classes. Ils vont donc ainsi intégrer cette promotion historique et nous en sommes fiers. Si vous le permettez, je poursuis avec la dernière partie de cet exposé sur les transformations endogènes. À l'inverse des précédentes, mais avec un réel effet sur l'esprit et les modes de fonctionnement des juges et procureurs en 2024, les éléments de transformation que je vais maintenant aborder viennent de l'intérieur. Tout d'abord, l'expression collective. Longtemps, la magistrature judiciaire s'est tenue à l'écart des médias, des manifestations collectives. La création des organisations syndicales, principalement au nombre de 2, le syndicat de la magistrature, créé en 1968 au sein même de l'École nationale de la magistrature, ce qui a eu tôt et rapidement fait de voir naître la thèse selon laquelle l'école serait une fabrique de juges rouges, thèse qui a encore ses supporters, et l'Union syndicale des magistrats, ce dernier est aujourd'hui et depuis un certain temps largement majoritaire. Il se définit comme apolitique, au contraire du syndicat de la magistrature, qui revendique son positionnement à gauche, bien à gauche, très à gauche, de l'échiquier politique. L'on peut, sans s'ouvrir à la critique ou à la contestation, souligner combien le syndicalisme dans la magistrature a, ces dernières années, fortement occupé l'espace médiatique. À un point probablement inégalé, et avec une démarche offensive envers le pouvoir exécutif, également inégalée sous la Ve République. Le niveau de défiance entre justice et politique, exposé en son temps par Robert Badinter, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, dans le numéro 73 de la revue Pouvoir, a été remis au goût du jour. Signe de la porosité de la jeune magistrature, avec les réseaux sociaux, les médias et les nouveaux modes de communication actuels, la tribune des 3000 est bien plus qu'un simple pavé dans la mare. Conçue en marge d'une réunion de membres du syndicat de la magistrature, Ce collectif, qui dénonce l'approche gestionnaire de la justice et souligne la discordance entre la volonté de rendre une justice de qualité et la réalité du quotidien, a, in fine, recueilli plus de 7000 signatures d'élèves magistrats, de greffiers, de magistrats, venant révéler une transformation profonde du juge et du procureur qui nous intéresse, celui d'aujourd'hui. Autrefois soucieuse de sa discrétion dans l'expression de ses ressentis, la magistrature judiciaire d'aujourd'hui n'hésite ni à prendre la parole, ni surtout à prendre, par médias et réseaux sociaux interposés, à prendre la société à témoin. Ce mouvement fut d'une telle force que la haute magistrature, première présidente et procureure générale près la Cour de cassation en tête, accompagna ce mouvement inédit qui est venu atteindre également nos élèves magistrats, la promotion 2022, composée de plus de 250 magistrats qui prendront leur premier poste le 1er septembre 2024 et qui s'était donc baptisée promotion tribune des 3000. Il est difficile d'affirmer avec certitude que ce mode d'expression va être régulièrement usité par les juges et procureurs de 2024 dans un futur plus ou moins proche. En revanche, mes responsabilités actuelles me permettent de lire dans les sollicitations transmises par mes élèves, par nos élèves, toutes générations confondues, une grande sensibilité au ressenti, doublée d'une grande liberté de parole, affranchie du traditionnel rapport hiérarchique. Ces deux tendances rompent indubitablement avec le passé. Elles illustrent ce que l'on appellerait des transformations silencieuses, concept développé par le professeur des universités, philosophe helléniste, sinologue François Julien, que j'ai souhaité rencontrer et qui est venu à l'école, et qui peuvent se définir comme des modifications pouvant passer inaperçues, sans toutefois être invisibles, alors qu'elles conduisent à des bouleversements. Elles sont réelle et sérieuse, et mes échanges fréquents avec les chefs de juridiction me permettent de mesurer les difficultés croissantes de l'exercice complexe d'animation d'équipes intergénérationnelles de magistrats judiciaires. Cette réalité doit du reste probablement intervenir dans le processus de diminution de l'attractivité des fonctions de chef de juridiction. Sur le développement des notions d'équipe, que j'évoquais tout à l'heure, qui va être véritablement un changement de travail dans les juridictions, puisqu'il va falloir apprendre dans les différentes juridictions, et notamment au civil, où la collégialité est sortie, apprendre à travailler avec les juristes assistants, les contractuels de catégorie A et B, ces fameux sucres rapides, qui sont les nouveaux acteurs du travail juridictionnel. Il s'agit là d'une influence extrêmement importante que nous devons d'ailleurs à l'impulsion actuelle du garde des Sceaux avec le recrutement annoncé de 10 000 agents d'ici 2027, dont 1 500 magistrats, 1 800 greffiers, au moins 1 100 attachés de justice d'ici 2025, et le rapport élaboré par Madame Dominique Lottin, ancienne membre du Conseil constitutionnel et actuellement au CSM, montre combien les réalités de fonctionnement d'organisation de ces nouvelles ressources humaines, qui sont disparates encore sur le territoire, vont être un sujet de savoir vivre ensemble dans les juridictions pour mieux travailler. J'aurais aimé également vous parler plus longuement de la prise en compte de la performance. Cette performance, dont je vous ai dit qu'elle était critiquée dans sa recherche au sein des juridictions, dont certainement vous avez également entendu parler, puisqu'il suffit d'assister à une audience de rentrée solennelle pour entendre les chefs de cour et les chefs de juridiction parler des chiffres, des taux, des différents types de réponses pénales, de classements sans suite, de progression des affaires nouvelles. Et cette tension entre objectif de performance, ressenti de la charge de travail, aspiration légitime à la quête du sens et de son office, c'est également une évolution caractéristique de la vie du juge en 2024. J'aurais aimé également vous parler du renouveau de la matière civile et de la politique de l'amiable. Cette mise en œuvre d'une politique de l'amiable qui nous fait dire et pour ma part espérer qu'enfin nous allons pouvoir mettre en œuvre les axes de médiation, de nouvelles audiences, des audiences qui vont permettre pas seulement de fluidifier les flux d'affaires en cours, mais également, sans doute, de donner un renouveau aux fonctions civiles qui, lorsqu'elles étaient considérées comme extrêmement valorisantes, le sont devenues de moins en moins, au point que les États généraux de la justice proposent des voies susceptibles de rendre aux fonctions civiles leur lettre de noblesse. Et c'est dans ces axes que j'ai souhaité, à l'école, poursuivre une ouverture des corps de formateurs que j'ai évoqué tout à l'heure, en menant une réflexion pour conduire à un décret qui est un décret de juin 2023 et qui va nous permettre d'ouvrir ce corps des formateurs dont je vous ai dit jusqu'à présent qu'il était exclusivement composé de magistrats judiciaires, de l'ouvrir vers des non-magistrats, non-fonctionnaires, pour aller chercher ces nouvelles compétences dans la formation à l'école, là où elle se trouve, et notamment pour aller chercher des médiateurs, notamment pour aller chercher des managers, des personnes qui ont pour métier, pour responsabilité et savoir professionnel de transmettre les notions de management, nous permettre de les intégrer dans nos équipes de formation afin justement d'avoir cette co-construction sur des sujets dont les magistrats ne sont pas peut-être les plus compétents au point de pouvoir les transmettre. Cette dernière transformation est en marche et les juges de 2024 en sont déjà, d'ores et déjà, les acteurs, puisque les recrutements que je vous énonce pour ouvrir le corps de nos formateurs sont en cours et nous allons accueillir donc de nouveaux formateurs non magistrats à l'école. Me voici ainsi parvenu au terme de mon exposé que j'ai souhaité dresser par touches successives avec ce tableau sur l'état des juges et des procureurs en 2024, laissant apparaître donc la fonction centrale de l'École nationale de la magistrature qui unit, qui rassemble, qui fonde ce cœur de l'identité professionnelle des magistrats. Mais ce qui n'empêche pas, et j'espère pouvoir vous en convaincre dans ce moment de débat qui va s'ouvrir, ce qui n'empêche pas l'école d'être en évolution, d'être en transformation, en adaptation, non seulement aux défis du chiffre que vous avez dit, mais également de la qualité. Un dernier mot, j'aimerais vous dire qu'en prenant mes fonctions à l'école, et avant de proposer des axes de transformation, que j'espère avoir esquissé et continuer avec vous, j'ai mis en place un audit par des personnes qualifiées extérieures sur la formation à l'école. Je voulais faire un bilan sur la réforme de 2008 dite Outreau que je vous ai un peu détaillée et puis le point où nous en étions. Et j'en ai tiré certaines convictions que je partage avec vous pour ce qui est de l'attitude du juge judiciaire. Il faut, je pense, et nous œuvrons à la hauteur de ce que nous pouvons faire à l'École nationale de la magistrature pour lutter contre un isolement socio-culturel de la magistrature, plus particulièrement la coupure qui pourrait se faire entre la magistrature judiciaire et le reste de l'État qu'il faut réduire. Je vous ai parlé de la mise en place des réflexions issues de la mission Thiriez, nous y sommes. On peut agir sur l'état d'esprit des magistrats, tant au niveau de la formation initiale, en y donnant une place plus grande au souci de l'intérêt général, en faisant découvrir aux élèves magistrats les réalités de la société et de l'État. Et puis on doit aussi poursuivre une ouverture de la magistrature à l'extérieur. Je pense au recrutement de tours extérieures, aux mobilités dans l'administration, dans la société civile. La magistrature doit s'ouvrir aux expériences extérieures en recrutant hors concours étudiant dans une proportion sensiblement supérieure à l'actuelle. Et nous y sommes avec le concours professionnel que j'ai évoqué. Voilà un peu la feuille de route que je voulais partager et que je me suis dressée, mais aussi en vous disant en conclusion qu'être juge en 2024, c'est surtout avoir pleine conscience qu'il n'y a pas de démocratie sans état de droit, ni d'état de droit sans une justice indépendante, respectée et respectueuse de la place qui est la sienne à l'intersection des sphères politiques et sociales. Et le sens de l'équilibre, sur le modèle du mobile de Calder, est peut-être la figure qui sied plus aux juges et procureurs de 2024 que le traditionnel symbole de la balance tenue par Thémis.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce vaste panorama et surtout pour nous permettre de prendre conscience des évolutions. Et c'est vrai, 20e siècle, 21e siècle, on n'y pense pas toujours.